Livre de Néhémie, chapitre 1. Les paroles de Néhémie, fils de Hakalia. Et au mois de Kislev, la 20e année, il arriva que comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes, vinrent de Juda. Et je les interrogeai sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont demeurés des restes de la captivité, là dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Et la muraille de Jérusalem est en ruine, et ses portes sont brûlées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurai. Et je menai deuil plusieurs jours, et je jeûnai. Et je priai le Dieu des cieux, et je dis, « Je te supplie, ô Éternel, Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur que je fais aujourd'hui devant toi, jour et nuit, pour les fils d'Israël, tes serviteurs, et la confession que je fais touchant les péchés des fils d'Israël que nous avons commis contre toi. Moi aussi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons très mal agi contre toi, et nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts et les ordonnances que tu as commandées à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant, « Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi et que vous gardiez mes commandements et que vous les pratiquiez, quand vous dispersés serez au bout des cieux, je les rassemblerai de là et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Et ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Et fais réussir aujourd'hui ton serviteur, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant cet homme. Or, j'étais échanson du roi. » Et il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerces, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi, et je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage, et pourtant tu n'es pas malade? Cela n'est rien que de la tristesse de cœur. » Alors j'eus extrêmement peur. Et je dis au roi, « Que le roi vive à toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévasté et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Et je priai le Dieu des cieux. Et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. » Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, « Combien de temps durera ton voyage et quand reviendras-tu ? » Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'ils me fassent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente des portes du château fort attenant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. Et le roi me les donna, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et je vins auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur donnai les lettres du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Et quand Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'apprirent, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, en face de la source du Chacal, vers la porte du fumier, et je considérai les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. Et je passai à la porte de la fontaine et à l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où pût passer la bête qui était sous moi. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille, et je m'en revins, et entrai par la porte de la vallée, et je m'en retournai. Or, les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. Et jusque-là, je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. Et je leur dis, « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée, et que ses portes sont brûlées par le feu. Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi, et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Et quand Sanballat le Horonite, et Tobija le serviteur ammonite, et Geshem l'Arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent, et ils dirent, « Qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi ?» Et je leur répondis et leur dis, « Le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. »
Chers frères et sœurs, chers amis, on pourrait se demander pourquoi est-ce que nous lisons aujourd'hui, dans l'an 2023, encore un livre historique de l'Ancien Testament, un livre qui nous parle du peuple terrestre de Dieu. Est-ce que ce ne sont pas déjà des choses qui sont passées depuis très très longtemps? Et c'est vrai, certainement. Mais nous comprenons bien que la parole de Dieu nous parle toujours, à n'importe quel endroit de l'Écriture. Toujours Dieu a quelque chose en vue aussi pour son peuple aujourd'hui. Et nous faisons certainement bien de lire attentivement aussi les enseignements que Dieu nous donne dans ces livres historiques. Livre historique, quand nous prenons ce mot dans son sens général, ce sont des hommes qui écrivent quelque chose qu'ils ont vécu, que leurs ancêtres ont vécu, ils fixent cela et ils croient que ça c'est intéressant pour tout le monde, mais c'est selon la pensée humaine que ces livres historiques, qui existent dans le monde bien sûr, que ces livres historiques sont écrits par des hommes et selon la pensée des hommes, selon l'appréciation des hommes, selon ce qu'ils trouvent intéressant et ce qu'ils trouvent important à savoir et à retenir. Mais avec la pensée de Dieu, c'est autrement. Quand Dieu écrit l'histoire, alors il a toujours en vue autre chose encore qui est plus élevée, ou on pourrait dire aussi plus profond. Et nous avons certainement aussi une preuve pour cela dans le Nouveau Testament. J'aimerais juste lire un passage que nous connaissons bien, je pense, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, ce verset qui a été déjà, il me semble, Remarquez aussi dans une de nos prières, Romains 15 au verset 4, « Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. » Nous avons un passage comme celui-ci. Nous avons encore un autre passage que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, juste avant d'ailleurs que l'apôtre Paul parle aussi de la table du Seigneur, parle de quelque chose qui concerne directement l'Assemblée. Je lirai donc dans ce chapitre 10 des premières épîtres aux Corinthiens, au verset 15. « Or, toutes ces choses leur arrivèrent au peuple terrestre comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteintes. » C'est-à-dire de notre temps. La fin des siècles, c'est maintenant, c'est pour nous. Alors, les paroles de l'Ancien Testament, les paroles que Dieu a écrites, a fait écrire pour le peuple d'Israël, pour le peuple terrestre, ont aussi une importance pour nous, une portée directe pour nous. Nous apprenons par là. Et quand nous regardons l'histoire du peuple terrestre, nous voyons deux choses. Nous voyons d'une part la grâce de Dieu. Nous voyons comment Dieu a agi, comment son cœur, il a ouvert son cœur pour des hommes, pour un peuple qu'il a choisi. Non pas parce que c'était un peuple important, c'est le plus petit même, il est dit, c'est un peuple qui paraît être peu important, oui. Mais Dieu a pris ce peuple-là pour se révéler à ce peuple dans sa grâce et dans ses pensées, aussi ses pensées pour le futur, pour l'avenir, aussi pour apprendre déjà là des choses à nous aujourd'hui. Dieu a tout cela déjà en vue. C'est la première chose que Dieu a agi en grâce. Mais deuxièmement, Dieu nous montre aussi la responsabilité de l'homme, la responsabilité de son peuple. Il s'est révélé à ce peuple par Moïse et par les prophètes aussi après pour leur faire comprendre ce qu'il aimerait voir chez l'homme. Premièrement, une attitude d'humilité devant lui. Deuxièmement, une attitude d'obéissance envers sa parole. Il a dit exactement « Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez. » Et il nous montre par l'histoire de son peuple terrestre comment nous sommes, nous les hommes, comment nous sommes. Que quand il y a quelque chose que Dieu a commencé dans sa grâce avec l'homme, Dieu doit remarquer toujours un déclin dans ce que l'homme fait de ce que lui, Dieu, a donné en grâce, en bénédiction. Toujours il y a un déclin. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous remarquons encore aujourd'hui. Nous en avons parlé aussi dans nos prières. Mais Dieu, dans sa grâce, a encore souvent, plusieurs fois, soulevé, pour ainsi dire, ce peuple. J'espère qu'on me comprenne quand je dis ça. C'est-à-dire l'élever par sa grâce, l'élever à quelque chose qui lui plaît. Il a donné un certain réveil. Il a donné un réveil. Il a donné encore un réveil. Il a fait savoir à certaines personnes de son peuple quelles sont ses pensées profondes. Alors, quand nous regardons justement cette période, quand le peuple est déjà dans son pays, Dieu l'a conduit dans son pays, dans ce pays de la promesse, à Canaan, le peuple y a vécu, le peuple est retombé dans ce qui était avant, de ce qui avait caractérisé le peuple en Égypte, c'est-à-dire l'idolâtrie. Le peuple est arrivé jusque-là. C'est Dieu qui l'a relevé, a relevé sa vérité. Dieu a montré ce qu'il attend de l'homme, ce qu'il attend aussi de son peuple terrestre. Et il a fait un réveil. Ce réveil est la réponse que Dieu donne après avoir permis une sorte de... Je le dis autrement. Dieu a permis que le peuple, selon ce qu'il avait dit, que le peuple était emporté, était sorti de son peuple, de son pays, devait quitter son pays et était allé en captivité à Babylone. Dieu a permis cela. C'était une réponse grave, une réponse en jugement pour le peuple terrestre. Mais Dieu avait en même temps, c'est ce que nous avons d'ailleurs lu aussi, Dieu a en même temps eu encore une pensée de grâce. Il a même encore en parlé. Il a dit, au verset 8 de ce premier chapitre, « Souviens-toi, dit Néhémie dans sa prière, je te prie de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant, si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi et que vous gardiez mes commandements et que vous les pratiquez, quand vos dispersés seraient au bout des cieux, je les rassemblerai de là et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. » Voilà une promesse que Dieu donne en même temps. Et c'est le cœur de Dieu qui parle. Il sait, le peuple va certainement, il le savait, bien sûr, va être infidèle. Mais quand il y a quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui reprend son chemin, qui le juge son chemin, alors à ce moment-là, je ferai grâce, je le ramènerai. Et il a fait ça une fois, un premier réveil, avec des personnes que lui a touché dans leur cœur, c'est-à-dire d'abord c'était Zérubbabel, plus encore le sacrificateur Yeshua. Pour une première fois, toute une partie du peuple a pu retourner dans le pays des pères, a pu retourner en Canaan. C'est la grâce de Dieu qui a donné ce réveil. C'est lui qui a agi dans le cœur de cet homme Zérubbabel, qui était de racines royales, et Yeshua, qui était de racines sacerdotales. Oui. Et les deux ont amené tout un nombre de à peu près 50 000 personnes qui sont revenues de la captivité de Babylone pour rentrer dans le pays de la promesse, dans le pays des pères. Bon. Est-ce que c'était vraiment tout? Est-ce que vraiment là, le peuple a agi en général? Est-ce que alors ceux qui étaient restés à Babylone, est-ce qu'ils ont changé? Eh bien non. Dieu fait encore quelque chose. Il envoie encore quelqu'un. Il voit encore un prophète, deux prophètes, pour faire comprendre au peuple ce qu'il faut faire maintenant. Qu'est-ce que Zérubbabel avait fait? Ils étaient entrés dans la ville de Jérusalem. Ils ont bien compris, il faut une chose, il faut l'autel. Il faut que nous nous approchions de Dieu. Donc il faut un autel pour pouvoir adorer Dieu, pour être en contact, en communion avec lui. Chose importante, Dieu l'a béni aussi, les a aidés aussi dans ce travail. Après, ils ont compris aussi, il faut faire davantage, il faut aussi bâtir la maison maintenant, la maison de l'Éternel. Ils ont commencé. Eh bien, malheureusement, ils ont dû arrêter. Premièrement, parce qu'un des rois qui leur avait d'abord permis d'aller dans leur pays, il a interdit continuer à bâtir. Et il y avait pas seulement cela, il y avait aussi une chose qui était un peu déplorable, c'est que le zèle du peuple a diminué. Alors, le travail pour la maison de Dieu s'est arrêté. Alors là, Dieu a envoyé deux prophètes. C'est le prophète Agé et le prophète Zacharie qui ont parlé au peuple, au cœur du peuple. Ils étaient venus pour cela. Surtout quand nous pensons à Agé, c'était un prophète qui avait justement cette tâche de ramener le peuple à la pensée première de devoir construire la maison, ne pas construire leur maison, mais de construire la maison de l'Éternel, de reconstruire. Le fondement était mis, maintenant il fallait bâtir. Et puis alors, après, ils ont vraiment travaillé et en peu de temps, le temple a été reconstruit. Est-ce que c'était tout? Est-ce que c'était vraiment un état, un bon état pour le peuple qui se trouvait à Jérusalem? Eh bien, nous voyons que, eh bien, non. Mais Dieu a encore une fois fait un réveil, encore une fois. Il a envoyé un homme de qualité parce qu'il connaissait la parole, qu'il a étudié la parole et qu'il a enseigné la parole. C'est ce que nous lisons d'un homme comme Esdras. Esdras, un scribe, un homme qui aime la parole, un homme qui a expliqué la parole, qui a présenté la parole. Et puis alors, c'était un réveil quand même pour une partie du peuple. Il a mis la parole, la loi de l'Éternel, il l'a mis déjà sur sa place. Mais il restait encore, toujours encore quelque chose à faire. Et nous sommes maintenant arrivés à ce livre de Néhémie et nous voyons au début qu'il y a un frère de Néhémie qui est allé de Babylone à Jérusalem et qui a fait un rapport de ce qu'il a trouvé. Un rapport triste. Et Néhémie, un homme dont Dieu avait certainement réveillé le cœur, réveillé la conscience, avait de l'intérêt. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que le peuple vit à Jérusalem? Et il s'enquiert de cela chez son frère Anani. Je crois qu'il s'appelle Anani aussi. Oui, en français aussi. Anani qui peut lui donner un rapport. Mais il y a tellement de décombres, il y a tellement de ruines. Les murs n'existent plus. Les murs sont tombés en ruines et les portes sont brûlées. Alors Néhémie, il en est très très ému. Nous avons lu ce chapitre. Je trouve très bien que nous l'avons lu tout lentement pour comprendre ce que Néhémie a remarqué. Voilà. Il n'y a pas les murs. Et alors, quand il n'y a pas de murs, quelle en est la conséquence? Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut y arriver, tout le mal peut entrer dans la ville de Jérusalem, mais pourtant là, dans la ville, il y a le temple, il y a l'autel, il y a Dieu qui veut habiter là. Alors est-ce que c'est possible que le mal arrive là où Dieu prend sa place, où Dieu demeure? Eh bien, il faut absolument que le mur soit reconstruit. Il comprend et il confesse. Ce que nous avons vu, c'est qu'il est triste, qu'il s'est assis, qu'il a pleuré. Mais il n'a pas seulement pleuré, il a aussi prié. Et sa prière est vraiment saisissante, une prière de confession. Un frère dans une des prières a aussi dit que vraiment il avait compris que ce n'était pas la faute de quelques-uns, là, mais que c'était la faute de tous. Aussi, moi et ma maison, nous avons failli, nous avons péché, nous avons mal agi devant toi, notre Dieu. Mais il y a d'une part la confession, mais d'autre part, il y a aussi ce qu'il dit à l'Éternel, eh bien, comme s'il voulait rappeler à Dieu quelque chose. Mais tu as dit que quand il y a des personnes qui veulent retourner, qui veulent se convertir, n'est-ce pas ? Là, tu répondras en grâce. Il fait appel justement à ce que Dieu avait dit. Et ça, c'est très beau de voir. D'une part, la confession de son propre péché, du péché du peuple, de leur bas état. Et il en voyait bien le bas état du peuple, le bas état moral du peuple était, pour ainsi dire, symbolisé dans le mur qui était détruit, dans les ruines du mur. Là, c'était un signe très clair qu'il y avait vraiment, un bas état moral du peuple. Et alors, il fallait reconstruire les murs. Et les portes étaient brûlées. Alors on ne faisait plus attention à ce qui peut entrer et sortir de la ville. Alors tout était en désordre. Et Dieu a mis dans son cœur une pensée. Il faut absolument que le mur soit reconstruit. Il faut absolument que les portes soient reconstruites aussi. Nous voyons, dans les réveils, c'est toujours Dieu qui agit. Dieu agit dans le cœur d'un homme, dans le cœur de quelques hommes peut-être, mais c'est lui qui réveille la conscience et le cœur de l'homme. Nous pouvons voir de nouveau les deux côtés. D'une part, Dieu agit en grâce, en réveillant. Et il veut nous réveiller aussi, nous, aujourd'hui, par sa parole. Et d'autre part, il montre aussi la responsabilité qu'on a. Et il donne la force. Un des frères a aussi prié dans notre réunion de prière que Dieu peut nous donner la force et qu'il peut nous montrer ce qui plaît à ses yeux, ce qui est utile, ce qui est en bénédiction. Et il veut aussi aider à agir ainsi. Voilà quelque chose que nous pouvons voir au début. Et maintenant, c'est Dieu qui agit d'abord dans le cœur de cet homme, de ce Néhémie. Il emploie ensuite ce Néhémie comme un instrument pour faire valoir ses pensées. Ça commence dans le cœur de cet homme, dans le cœur de Néhémie. Et chers amis, nous comprenons aussi très bien que c'est toujours dans notre cœur aussi que le réveil doit commencer. C'est dans nos cœurs que ça commence. Dieu le fait avec cet homme Néhémie. Il le prépare. Il y a la prière qu'il a, la prière pour, et il n'est pas le seul d'ailleurs qui prie, mais il parle aussi d'autres qui prient, d'autres qui ont la même pensée. Heureusement, c'est ainsi, Néhémie peut en parler, et nous pensons aussi au fait aujourd'hui. Ce n'est pas un seul qui aujourd'hui a cette pensée, a ses soucis, a cette confession, mais c'est aussi que Dieu veut agir dans plusieurs. Et il les amène ensemble. Mais maintenant, il commence avec cet homme, avec ce Néhémie. Et Néhémie prie pendant tout un temps. Ça fait 4 mois qu'il prie. Il sait bien, pour pouvoir le faire, lui qui est échanson du roi, qui a un travail à faire, une tâche à accomplir, là où il était, disons, sa profession, pour ainsi dire. Mais il attend. Dieu le fait attendre, parce qu'il avait déjà aussi prié, donne-moi de la miséricorde devant cet homme, devant ce roi. C'est nécessaire qu'il me laisse aller, qu'il me permet de m'en aller pour faire le travail que Dieu a mis dans son cœur. Dieu le fait attendre 4 mois. Je pense que c'est sur 4 mois de prière où Néhémie comprend aussi comment Dieu veut le faire. Et le moment arrive. C'est Dieu qui prend les choses en main. Après 4 mois, tout d'un coup, il y a une occasion. Dieu ouvre le cœur d'un homme qui voit Néhémie, qui voit qu'il est en chagrin, qu'il voit qu'il y a quelque chose que son serviteur et chanson a dans son cœur. Et Dieu permet qu'alors ce roi pose une question. Et alors là, c'est le moment où Néhémie comprend. C'est le moment maintenant. Mais alors, il entre encore une fois en prière devant son Dieu. C'est une courte prière, certainement, mais une prière qui est aussi la conséquence des 4 mois de prière qu'il avait avant. Et maintenant, il peut prier. Nous ne lisons pas ce qu'il a prié, mais certainement, c'est le moment, ô mon Dieu, que maintenant je peux présenter la demande que tu as mise dans mon cœur, et je vais la présenter en assurance devant toi. Et puis il le fait. Il a le courage de le faire, parce que c'était difficile. C'était dangereux. Le roi n'aimait pas que quelqu'un soit ayant un visage triste comme ça dans sa présence. C'était pas, ça, il n'aimait pas, c'est ce qu'il n'acceptait pas. Et alors ici, il accepte, il pose même la question, et Néhémie a la possibilité de répondre d'une façon qui atteint aussi le cœur de cet homme, de ce roi. Dieu fait tout. Et Dieu lui permet aussi de dire qu'il veut aller à Jérusalem, qu'il veut reconstruire les murs, les portes, parce que c'est la ville de ses pères, la ville des sépulcres de ses pères. Il dit cela, c'est la ville de Dieu bien sûr, mais il dit aussi cela, ce côté-là, compréhensible pour le roi de Babylone. Il devait comprendre aussi la pensée de Néhémie, bien que la pensée de Néhémie était plus profonde que celle qu'il peut présenter au roi. Et pourtant, Dieu permet que maintenant il puisse sortir, il puisse aller à Jérusalem pour faire ce travail. Et alors Dieu aussi lui donne davantage, il lui donne aussi les possibilités pratiques pour le faire. Le roi même lui donne ça et ça et ça, les lettres pour lesquelles il a demandé, bien sûr. Mais le roi l'envoie non pas seul, mais puisque c'est un échanson, il a certainement aussi sa propre gloire en vue, le roi de Babylone. Il dit, mais alors lui, là, mon échanson, il ne va pas partir seul, mais je vais l'envoyer avec un accompagnement qui l'aide aussi à arriver à Jérusalem. Et bien là, maintenant, à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu dire, « Alors ici, chers compatriotes, on va faire quelque chose, on va le faire ensemble, n'est-ce pas, d'accord ?» Non, il fait d'abord pas cela, il n'en parle pas du tout. Dieu avait mis quelque chose dans son cœur et il attend encore ces 3 jours. Après ces 3 jours, il s'est dit, alors maintenant, il faut que je regarde vraiment de près, que je sois vraiment attentif à ce que je vois. Et alors, il fait le tour de la ville comme ça, il a vu les murs. Il n'a rien dit aux autres, il l'a fait seulement à la fin, mais pas encore tout de suite, parce que s'il avait dit dès le début, alors il faut reconstruire le mur, oh là là, Néhémie, ce n'est pas possible. Si c'était possible, on l'aurait depuis longtemps fait. Nous comprenons hein, ces pensées qui peut-être pourrait être dans le cœur des hommes qui habitaient là. Ils n'avaient rien fait avec les murs, parce que ce n'était pas à leur vue, ce n'était pas possible. Le travail est beaucoup trop fort, beaucoup trop grand. On n'arrivera pas, on n'arrivera jamais. Mais alors lui, avec une confiance que Dieu met dans son cœur, il regarde d'abord et après il en parle. Il parle à ces nobles, à ces personnes importantes de son peuple, et il arrive par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qu'ils comprennent vraiment et qu'ils disent une parole. C'est étonnant d'ailleurs que de voir que au verset 17, je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée et que ses portes sont brûlées par le feu. Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils diront, levons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Voilà, tout d'un coup, un changement de conscience, même parmi le peuple. C'est Dieu qui l'a opéré, mais Dieu qui a employé ses serviteurs fidèles, ce serviteur qui a une vue très claire et profonde concernant la situation du peuple dans ce temps à Jérusalem. Et nous allons voir comment vraiment ils se lèvent et comment ils travaillent, comment ils fortifient leurs mains dans le Seigneur. La confiance en Dieu, c'est cette confiance qui les conduit et cette responsabilité également qu'ils ressentent devant la sainteté des dieux. Je ne vais pas tellement encore parler de la signification imagée de la muraille, mais nous comprenons très très bien et très vite que la muraille est là pour protéger, que la muraille est là aussi pour séparer entre le mal et le bien, entre ce qui peut entrer et non pas. Et les portes aussi ont une signification claire. Par la porte, on peut entrer, et par la porte, on peut sortir. Mais n'importe, non pas n'importe qui. Là, c'est un soin nécessaire de regarder qui est-ce qui entre, qu'est-ce qui entre, et comment est-ce qu'on sort aussi de la ville. Nous allons voir que cela nous donne aussi des enseignements qui sont utiles aussi pour nos jours aujourd'hui. Et nous pouvons en faire d'ailleurs aussi une application assez directe concernant le temps dans lequel nous vivons, parce que ce qui s'était passé dans le peuple terrestre, cela s'est passé aussi dans le peuple céleste, qui, je dirais plutôt, dans la chrétienté, nous avons également des réveils, et un réveil, et encore. Et Dieu utilise certaines personnes pour vraiment atteindre la conscience et le cœur des siens, encore aujourd'hui.
Très courtement, encore quelques pensées générales, mais très courtement. Quand nous ouvrons le livre de Néhémie, il y a plus de 80 ans, après le livre d'Esdras, souvent on parle de Esdras-Néhémie comme si c'était à côté. Il y a 80 ans qui se sont passés entre le moment où Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus au début d'Esdras et ce que nous lisons là. On voit comment le peuple, en effet, a pu complètement se lasser, ne pas persévérer dans l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire. Nous sommes dans le temps des nations. Israël est mis de côté. Et c'est pour ça que dans ce livre de Néhémie, le temps est compté par rapport aux monarques des nations et non pas par rapport à l'histoire d'Israël. Israël est mis de côté. Le temps des nations a commencé avec l'exil, Nebuchadnezzar. On renvoie chacun à la statue de Daniel, de Daniel 2, qui nous parle du temps des nations. Nous sommes toujours dedans, dans le temps des nations. Nous sommes toujours dedans, jusqu'à l'enlèvement de l'Église des croyants par le Seigneur. Encore une pensée aussi. Où était le cœur de Néhémie? Il avait quand même accédé à une place extraordinaire. Quand on est échanson du roi, on est dans l'entourage du monarque et on a toute sa confiance dans ces temps, vous savez, d'empoisonnement. Il fallait qu'on puisse avoir confiance, en tout cas dans quelqu'un, c'est dans son échanson. On peut dire qu'il avait une réussite matérielle. Nous en avons, nous aussi, tous ici. Nous ne sommes pas en souci pour notre bien matériel, nous avons tout ce qu'il faut. Mais où est le cœur de Néhémie? Et où sont nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont dans cette réussite sociale? Dans ce qui fait courir les hommes d'aujourd'hui? Le cœur de Néhémie, où était-il? Tout échanson qu'il soit, il était à Jérusalem, un lieu de ruine. Et en cela, il partageait les sentiments de son Dieu, qui avait dit à Salomon, après la prière de Salomon, le jour de l'inauguration du temple, « Mes yeux et mon cœur seront toujours là. » Et pas seulement quand tu auras un temple splendide, quand ce serait un champ de ruines. Bien-aimés, où sont nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont dans les intérêts de notre Seigneur? Dans les Philippiens, nous avons ce verset qui est pour notre conscience. Tous cherchent leur propre intérêt, non pas ceux de Jésus-Christ. C'est très, très solennel. Qui de nous n'est pas repris par ce verset? Une dernière chose aussi, d'une manière générale, c'est qu'avec le débit de Néhémie, alors ça c'est peut-être une pensée un peu technique, mais je vais quand même la donner pour les jeunes si vous les cherchez, il y a quelque chose qui commence, quelque chose de très important qui commence, quelque chose qu'on trouve dans Daniel 9, qui commence avec le livre de Néhémie, commence les 70 semaines de Daniel. Il y en a 69 qui ont été accomplis. Ça a commencé avec le livre de Néhémie, la sortie de la parole pour rebâtir Jérusalem. Et la 69e s'est achevée quand le Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix. Il n'en reste plus qu'une. Il y a une immense parenthèse, nous sommes dedans, l'histoire de l'Église. Et la 70e semaine commencera après que le Seigneur Jésus soit venu nous chercher.
Encore une remarque générale. La question reste, pourquoi est-ce qu'on peut appliquer l'image de la ville, Jérusalem, avec les murs, sur l'Assemblée? Et la réponse est que la ville, Jérusalem, est une image de l'Assemblée. On le trouve dans Apocalypse 21, que dans le temps futur, l'Assemblée, dans le millénium, est appelé pas seulement Jérusalem, comme déjà, aussi avant pour l'éternité, mais il est dit dans le verset Apocalypse 21, verset 9 au milieu, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, une image de l'assemblée, la femme de l'agneau, et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Et après, il explique, pour ainsi dire, cette ville, et montre la gloire de cette ville, de l'assemblée dans le temps futur, dans le millénium. Et ça nous montre que Dieu, dans son cœur, n'a pas seulement la maison de Dieu, le temple, comme image de l'assemblée, c'est vrai, et le temple a fait partie certainement de cette ville, mais que Dieu a aussi cette ville comme une image de l'assemblée. C'est la pensée, c'est dans la ville, c'est particulièrement l'administration des pensées de Dieu sur l'assemblée. Il y a ceux qui habitent dans la ville, et je crois ça nous donne aussi, même pour notre temps aujourd'hui, Éphésiens 2, que cette pensée, même si ce n'est pas dit explicitement, on trouve dans le verset 19, Éphésiens 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus, les croyants des nations, étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. » Ça nous montre que une pensée de Dieu sur l'assemblée, c'est la ville. Et la ville doit être administrée. Et Dieu donne aux croyants, à nous tous comme croyants, à toute l'assemblée, cette pensée, cette responsabilité d'administration dans l'assemblée. Par exemple, Matthieu 18, verset 20. Oui, les versets 18 à 20. Que c'est l'assemblée ensemble, les croyants ensemble, certainement localement, qui sont responsables pour recevoir et pour exclure. C'est la pensée que nous trouvons avec la ville. Vraiment une responsabilité qui n'est pas une responsabilité d'un frère ou quelques frères, mais de nous tous. Mais souvent, ça commence certainement par un frère, par une personne qui a dans son cœur, qui voit l'état des choses et qui commence à agir. Mais comme nous voyons ici dans ces chapitres, ce n'est jamais une personne seule qui à la fin peut agir, mais c'est une responsabilité collective. Alors nous avons lu dans le verset 9, chapitre 2, Néhémie, que Néhémie est venu à Jérusalem et directement on voit que quand Dieu agit, il y a aussi l'ennemi de Dieu qui agit pareillement. Ici, par Sanballat et Tobija. Et il faut attendre toujours, si un croyant a à cœur de servir le Seigneur, si nous humilions devant le Seigneur, localement peut-être, ou en famille, que le diable ne veut pas le bien de l'assemblée. Il ne veut jamais qu'il y ait une bénédiction pour l'assemblée. Et alors, le diable a aussi ses personnes pour contre ce que Dieu veut accomplir. Mais Néhémie ne s'est pas laissé arrêter avec son travail, et comme nous avons entendu, premièrement, après 3 jours, il faut toujours réfléchir en prière avant d'agir Il faut prendre toujours une certaine pause. Si on a quelque chose sur son cœur avant d'agir, mais après ces 3 jours, il se lève pour regarder la ville. Nous avons entendu, il a reçu par Ananie un certain report sur la situation. Ananie, on voit dans chapitre 1, verset 2. Et quand même, Néhémie ne dit pas, alors, comme j'ai entendu, ça doit être la situation. Non, il regarde de près. Et je crois que c'est utile de se rappeler les reports qu'on reçoit, même si on a, comme Néhémie, des confiances à ceux qui font ces reports, il faut être toujours prudent. Nous trouvons la même pensée dans le Nouveau Testament avec Paul. Dans 1 Corinthiens 11, on trouve qu'il a reçu probablement par les frères de la famille de Chloé quelques informations sur la situation à Corinthe qui était très très négative. Et il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 18, « Car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous et je le crois en partie. » Alors même Paul, avec les personnes en qui il a eu cette confiance, certainement, il était prudent, il a, pour ainsi dire, regardé de près aussi ces choses. Maintenant, il faut distinguer certainement. S'il y a une décision d'un rassemblement, on l'accepte parce qu'on a confiance qu'ils ont fait cette décision au nom du Seigneur. Mais s'il y a, disons, des conflits, s'il y a des choses où il faut agir, servir, réagir personnellement ou même pour plusieurs frères, il faut toujours... toujours regarder de près. Des reports, il y a autant des rumeurs ou des reports qui peuvent exister. Il faut, comme Néhémie l'a fait, il a pris son temps pour regarder, pour avoir soi-même vraiment une report, pour avoir la vérité devant les yeux. Je trouve que c'est important dans nos temps et Néhémie est vraiment un bel exemple pour comment il faut agir si on entend quelque chose et de voir si c'est vrai. Et ici, c'était en fait tout à fait ce que ce frère, ce serviteur fidèle Ananie a dit.
Peut-être aussi encore une parole un peu générale. Donc, on a compris, on a affaire là dans ces chapitres à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et peut-être, je le dis pour les plus jeunes, une muraille, on l'a dit en introduction, ça nous parle de séparation, de protection, de sécurité. Et aussi, on peut peut-être dire que la muraille, elle définit l'unité de la ville. Donc, on peut penser aussi qu'avec le symbole de la muraille, on a la pensée de l'unité. Mais dans le monde d'aujourd'hui, et je pense que les plus jeunes, vous entendez beaucoup de choses, c'est pas du tout populaire de parler de muraille. Et quand on est dans le monde de l'entreprise ou qu'on entend ce qui se passe dans les actualités, on dit « il faut pas construire des murs ». Il faut construire des ponts. C'est une remarque qu'on entend souvent. Alors, je dis tout de suite qu'on n'a rien contre les ponts. Et entre parenthèses, il y a des hommes dans la parole de Dieu ou dans le Nouveau Testament, on pourrait dire qu'ils ont construit des ponts au sens spirituel. Je pense par exemple à Barnabas en acte 9, en acte 11. Il a construit des ponts, il a permis qu'il y ait de la compréhension là où il y avait de l'incompréhension. Il y a aussi un pont qui est remarquable, c'est celui de l'épître à Philémon. Il y avait une forme de brèche entre Philémon et Onésime, et l'apôtre Paul, par sa lettre, il a construit un pont. Et remarquable, et sans rien concéder à la justice et à la vérité, il a pu construire un pont. Donc, on n'a rien contre les ponts, mais ce que je veux dire, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, ça paraît très exclusif, restrictif ou orgueilleux de séparer. Et c'est pour ça que l'idée d'un mur, d'une muraille, elle est pas du tout populaire dans le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, on l'a bien vu, on le comprend ici. La muraille était nécessaire, et on a dit pourquoi. Et j'aimerais souligner que cette pensée de la séparation, il faut pas la dénigrer ou la déconsidérer. Elle est importante, et elle est importante dans toute la parole. Et on voit par exemple, dès le début de la Bible, Genèse chapitre 1, dans les premiers versets, on voit Dieu qui sépare la lumière des ténèbres. Et il y a constamment dans la parole cette idée que Dieu sépare les choses. Et il sépare donc la lumière des ténèbres, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est impur de ce qui est impur. Et en fait, dans notre vie, dans le monde, on est au contact du monde, des idées du monde, des pratiques du monde, et on a constamment à avoir cet exercice d'un point de vue spirituel, de faire la distinction entre les choses, entre ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas, ce qui est saint, ce qui est impur, etc. Et c'est pour ça que c'est un sujet, la muraille, qui devrait nous parler d'une manière pratique, et c'est-à-dire apprendre à distinguer ce qui est selon Dieu, ce qui est de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Et on voit, par exemple, dans le Nouveau Testament, on voit cette construction de la muraille. Par exemple, si on pense à l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, on voit que, en quelque sorte, Paul construit des murailles. Et quand, dans les deux, trois premiers chapitres, il parle de la sagesse du monde, de la puissance du monde, en contraste avec la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, il y a une distinction qui est faite, il y a une séparation. Et à nous de comprendre cela. Et aussi, 1 Corinthiens 5, en rapport avec le mal moral, il y a une distinction, il y a une séparation. Et on retrouve cela, on pourrait citer bien d'autres exemples dans le Nouveau Testament, que c'est une constante, que Dieu souhaite qu'il y ait une sainte séparation. Mais ce n'est pas une séparation dans laquelle on doit être prétentieux, orgueilleux, en disant « moi je suis supérieur à, donc je me sépare d'eux ». En fait, comme on a souligné l'humilité de Néhémie, eh bien, quant à nous, si nous avons aussi à nous séparer dans la vie pratique, personnelle, de famille, d'assemblée, eh bien, ça doit être dans un état d'esprit qui est sain, qui est bon, qui est humble. Ce n'est pas regarder les autres de haut en les dénigrant, mais c'est en rapport avec Dieu, en rapport avec les pensées de Dieu, en rapport avec la parole de Dieu.
J'ai beaucoup insisté, chose qui a été dite, c'est que le seul critère de séparation, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Qu'est-ce qui est compatible avec le Seigneur et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est le seul critère, il n'y en a pas d'autre. Et peut-être que quelquefois, Éric vient de parler de prétention, d'orgueil, peut-être que nous n'avons pas. Nous avons à nous humilier par rapport à cela. On n'est pas séparés parce qu'on est les meilleurs ou parce qu'on pense qu'on est les meilleurs. La seule séparation est par rapport au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on bâtissait une muraille? Ben parce qu'on avait construit le temple, il y avait l'autel. Il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser libre comme un moulin. Il fallait que ce soit qu'il y ait une séparation. Je tiens beaucoup à le dire très fort aux jeunes aussi. Les frères ne se séparent pas, nous ne devrions pas nous séparer parce qu'on croit qu'on en connaît plus que nous autres. je ne sais pas quel prétendu mauvais motif, mais pour le Seigneur. Séparation, qu'est-ce qui est compatible avec le Seigneur et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà la seule question que nous avons à nous poser.
À ce sujet, je voulais juste lire un verset dans Jérémie 5, verset 10. Donc on connaît Jérémie, c'est justement le temps où la ville était encore avec ses murailles et que la fin du livre de Jérémie, eh bien, les murailles sont détruites. Eh bien, au début du livre de Jérémie, au chapitre 5, verset 10, il nous est dit « Montez sur ces murailles et détruisez ». Mais ne détruisez pas entièrement. Ôtez ces créneaux. Car ils ne sont pas à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda ont agi très perfidement envers moi, dit l'Éternel. Ils ont relié l'Éternel et ils ont dit, il n'est pas. Donc on voit que là, il ne s'agissait pas de construire les murailles, mais il s'agissait de détruire des créneaux. Ces créneaux qui étaient vraisemblablement justement pour empêcher d'entrer à ceux qui y avaient de la place. Et donc, ce qui vient d'être dit, c'est que c'est le Seigneur qui sépare. Et bien là, ces créneaux n'étaient pas à l'Éternel. Et alors l'Éternel... Il a sur ses murailles, justement dans Ésaïe, au chapitre 62. Ésaïe, c'est encore un peu avant Jérémie. C'est du temps d'Ézéchias et avant Ézéchias. Et là, au Ésaïe 62, au verset 6, il est dit « Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens. Ils ne se tairont jamais, de tout le jour, de toute la nuit. » Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence et ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il en fasse un sujet de louange sur la terre. On sait que bientôt, comme ça a été dit après la dernière demi-semaine de Daniel, viendra le royaume et Jérusalem sera un sujet de louange sur la terre dont le Seigneur peut dire « Mon plaisir est en elle », au verset 6 du chapitre 62 d'Ésaïe, « Mon plaisir est en elle ». Et on peut lire aussi sur ce plaisir de l'Éternel qu'il a dans cette ville. Dans Ésaïe 49, au verset 14, « Mais Sion a dit, l'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. » Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là oublieront. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains et tes murs sont continuellement devant moi. Voilà la joie que l'Éternel a dans ses murs sont continuellement devant lui parce que justement, ce qu'il y a à l'intérieur de ses murs, c'est ce qui lui plaît. Et une bénédiction aussi qui était sur Joseph. Dans Genèse, au chapitre 49, Joseph, qui bien sûr est une image de notre Seigneur, Genèse 49, verset 22. Joseph est une branche qui porte du fruit. Une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Et donc on voit que par-dessus la muraille, eh bien, c'est le Seigneur qui... Il y a des ouvertures. Le Seigneur, Il veut rassembler, il ne désire pas la mort du pécheur. Mais nous, nous avons à obéir et à montrer que nous cherchons à faire ce que Dieu attend de nous. Mais pour le Seigneur, il y a des rameaux qui poussent par-dessus la muraille. Et on voit que ces fruits, ils portent des fruits près d'une fontaine. Et nous verrons aussi dans Néhémie cette porte de la fontaine, justement, qui nous parle de la parole de Dieu.
Il est toujours bien de baser nos pensées sur la parole. C'est la raison pour laquelle je cite ce que nos frères ont dit déjà de la parole. Ça veut dire sur les murs, Ézéchiel 42, verset 20, où dans le temps de millénium, Ézéchiel, ça veut dire Dieu lui-même, par lui, dit sur la mur. Le mur, Ézéchiel 42, verset 20, il la mesura des quatre côtés. Elle avait un mur tout alentour, la longueur 500 et la largeur 500 pour séparer ce qui était saint et ce qui était profane. Alors ça nous montre, si il y a si une séparation est nécessaire, ça doit se poser toujours sur la parole. Ce n'est pas à cause d'une pensée ou n'importe quoi, c'est la séparation de saint et de mauvais, de mal, d'après la définition de la Bible. Et on peut bien comprendre, le Seigneur, c'est celui qui est toujours lié avec le saint. Et le Seigneur, dans la vie, comme dans ce qu'il nous enseigne dans la parole, se sépare toujours de péché, de tout le mal. Et c'est pour nous aussi. Ce n'est pas une chose négative. La séparation pour le Seigneur, c'est quelque chose que nous avons à cœur, n'est-ce pas? C'est celui qui était mort pour nous. C'est celui qui a souffert pour nous. On veut personnellement, en famille, en assemblée, être séparés pour lui, être en communion avec lui. Et certainement, ça implique qu'il faut séparer de toutes les choses qui sont contre le Seigneur, contre cette sainteté de lui et de sa parole. Deuxième pensée, on peut se poser pourquoi est-ce que la muraille devient si importante maintenant? Est-ce que la muraille n'existait pas avant? Certainement. On a lu que les murailles de Jérusalem étaient en ruine et ses portes consumées par le feu. Ça nous montre que la muraille existait, mais dans un temps de début, dans un temps où tout va bien, les murailles ne sont pas au centre d'intérêt. Il existe, parce qu'on pratique ce qui est bon pour le Seigneur. Mais dans les temps de déclin, et Néhémie a vécu dans ce temps, c'est au milieu de son service que Malachie a écrit son livre. Et ça nous montre intérieurement l'état de ce temps. Dans les temps de déclin, il est important de se souvenir qu'il y a les murailles et que Dieu veut cette séparation, pas parce qu'il haït des personnes ou des choses comme ça, mais parce qu'il ne peut pas avoir communion que avec ce qui est en communion avec lui, ce qui est saint. Et c'est la raison pour laquelle aussi pour nous, ces murailles sont si importantes.
Il y a des murailles, un mur, mais il y a aussi des portes. Imaginons qu'ils aient fait que des murailles. On ne pouvait plus rentrer, on ne pouvait plus sortir. Et ne faisons pas au niveau des rassemblements qu'une muraille. Comme si on était tout seul, comme s'il n'existait pas d'autres croyants. Comme si nous n'étions pas intéressés par des croyants qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais on a mis un mur, on ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir. Il y a certainement un enseignement pour nous. Il nous faut aussi des portes. La porte, on l'a entendu, par une porte on entre, par une porte on sort. Et si on prend plusieurs passages de l'Écriture, une porte, c'est fait pour entrer et pour sortir, mais c'est aussi l'endroit des décisions. C'est ce qui rend navrant cette mention de Lot dans le chapitre 14, la Genèse. Vous savez, la dégringolade de Lot. Il a commencé à voir la plaine de Sodome. Il a certainement dit à sa famille, attendez, ils sont méchants, on reste là, on campe dans la plaine. Pas question. Et puis il y a eu l'usure du temps, et puis il y a eu, voilà, au bout d'un moment, on est allé habiter dans Sodome, c'était tellement plus pratique. Et puis dans le chapitre 14, on est à la porte de Sodome. La porte de Sodome, c'était l'endroit où se prenaient les décisions. Conseil municipal, on dirait aujourd'hui. Ce que je dis, c'est pas comme ça une idée qu'on tire d'un chapeau. On trouve ça dans le livre de Ruth en particulier. Où est-ce que la décision a été prise à la fin de Ruth ? À la porte de la ville. C'est là qu'on a fait arrêter les anciens. C'est là qu'on a décidé des choses par rapport à l'héritage d'Élimélec. Et puis, nous avons un verset aussi qui est fort intéressant dans Job, au chapitre 29. « Quand je sortais, verset 7, pour aller à la porte par la ville, quand je préparais mon siège sur la place. » Donc, Job tenait une place extrêmement importante là où il était, dans tout ce qui était décisionnel. Alors, on revient au fait qu'il y avait donc un mur. Est-ce que dans l'assemblée, il faut mettre un mur, certainement ? Ou est-ce qu'il faut mettre un mur et pas mettre de porte ? Des endroits, il faut mettre un mur, il ne faut pas mettre de porte. Par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, il n'y a pas à être exercé, il n'y a pas à siéger à la porte pour savoir ce qu'on va faire. C'est un incrédule. Il ne connaît pas le Seigneur Jésus comme son sauveur. Là, il n'y a pas à tergiverser. Il faut mettre un mur. Quelqu'un qui vit, qui est peut-être croyant, mais qui vit loin du Seigneur, il faut mettre un mur ou une porte ? Mais il faut mettre un mur. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais parlé de la scène du Sauveur, il est parlé toujours de la scène du Seigneur, c'est-à-dire celui qui a autorité. Ah oui, mais il n'a peut-être pas compris grand-chose, c'est pas grave, est-ce que le Seigneur est son fait autorité sur sa vie ? Il y a bien des choses qu'il ne sait pas, il n'a peut-être pas le look des rassemblements, mais est-ce que le Seigneur fait autorité ? C'est un enfant de Dieu, est-ce que le Seigneur fait autorité sur sa vie ? Mais si le Seigneur ne fait pas autorité sur sa vie, il faut mettre un mur. À cause de nous, parce que nous, on ne vit pas comme ça, pas du tout. Mais à cause de la seigneurie du Seigneur, il faut mettre un mur à cause de cela. Et puis la porte, bien-aimé, que ce ne soit pas comme quelquefois ça se passe dans des réunions de frères. On se lance des versets à la tête. On essaye de faire un bras de fer avec ses frères. Non, non, non. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas bien faire dans les assemblées. C'est être à la porte, pas assis, à genoux. Au lieu de sortir des théories, même basé sur la parole. Est-ce que nous savons être à genoux quand le Seigneur nous envoie une circonstance assez fatigante d'être exercée. Mais est-ce que nous savons faire cela ? Être à la porte. Et si nous disons c'est l'assemblée du Seigneur, très bien, mais ne nous comportons pas alors comme si c'était la nôtre. Cherchons toujours la référence là. Il y a eu dans l'histoire du peuple à Jérusalem des moments où à la porte, problème épineux, le Seigneur peut nous en envoyer. Mais ce n'est pas notre sagacité qu'il cherche à tester. Non, il cherche à tester notre dépendance de lui. Sachons être dépendants. Bien sûr, on connaît les choses depuis l'école du dimanche. Alors, on n'a pas besoin, on y va. Non. Non. Plaçons-nous devant le Seigneur. Jetons-nous au plié du Seigneur. Seigneur, doit-on ouvrir la porte ? Doit-on la laisser fermer ? Mais que ce soit la décision du Seigneur et non pas la décision d'une collection de frères.
Il y a la muraille, il y a les portes, mais il y a aussi les restants qui sont demeurés de reste de la captivité, qui sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Il y a donc ce qui concerne la sainteté de Dieu, la muraille, les portes. Mais il y a aussi ce qui concerne l'amour de Dieu, s'occuper de son peuple, de ce peuple qui est en détresse. Combien en effet de chrétiens sont dans l'opprobre et la détresse ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ces murailles et ces portes. Pensons à ce qui concerne Dieu, mais aussi à ce qui concerne les croyants. Et puis dans l'histoire qui nous concerne ici, apparemment il n'y a qu'un seul homme que cela concerne, c'est Néhémie. Et il nous est dit au verset 12, la moitié au milieu du verset 12, de ce que Dieu m'avait mis au cœur. Alors on a entendu tantôt cette question, où est notre cœur ? Peut-être que notre cœur n'est pas très engagé pour les choses de Dieu ou pour l'assemblée. Et ce verset pourrait nous dire, ah mais c'est normal, Dieu ne m'a pas mis ça au cœur. Je vais attendre que Dieu me mette l'intérêt de l'assemblée au cœur. Mais là on peut attendre des années, voire toute sa vie. Il y avait déjà, Dieu met au cœur des croyants, là où il y a déjà quelque chose. Et on voit ce qu'il y avait dans le cœur de Néhémie au début. Voilà son frère, ses frères qui reviennent d'avoir été dans le pays, il les interroge. On l'a dit, son cœur était là-bas. Cela nous fait penser à Moïse aussi, qui est dit, il lui vint au cœur de visiter ses frères. Là, il n'est pas dit, c'est Dieu qui l'a mis, il lui vint au cœur. Il les interroge. Et puis lorsqu'il entend ce qui est arrivé au peuple et à la ville, il pleure. Il est en deuil. Et puis il y a cette confession. Et il se sent concerné par ce qui arrive là. Il fait sa confession pour lui aussi et pour le peuple. On voit toute cette étape, ces étapes que nous avons nous aussi à suivre. S'intéresser aux affaires de Dieu, aux affaires de l'Assemblée, et puis avoir cette tristesse. Bien sûr, le croyant est quelqu'un qui est heureux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, mais il y a aussi cette tristesse qui cohabite avec le croyant, de voir où en est l'Assemblée, la ruine qui nous a atteinte. Et puis ensuite, donc il prie, il fait cette confession, et puis il rappelle à Dieu les promesses, manière de dire « aide-nous, tu vois ce que tu as dit plus tôt ». Il s'attend à Dieu. Et puis, ensuite, voilà, l'occasion se présente par le roi, par cette tristesse se voyait sur son visage, pas en ce qui concernait ses propres affaires, mais en ce qui concerne le peuple qui se trouvait à Jérusalem. Cette tristesse se voyait. Et puis, le roi lui demande, mais qui, pourquoi? Et on voit là aussi, une petite parenthèse, le roi me dit, que demandes-tu? Et je priais les dieux des cieux et je dis au roi. Voilà une prière expresse. Une prière expresse pour savoir quoi répondre au roi, pour avoir la sagesse de bien répondre. Et puis voilà le résultat. Verset 8, le roi me donna tout ce qu'il demanda selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et c'est seulement après qu'il dit, mon Dieu m'avait mis au cœur. Il faut qu'il y ait déjà cette envie dans ton cœur, ce désir de plaire au Seigneur, ce désir de faire quelque chose dans l'assemblée, pour l'assemblée. Et puis il y a cette humilité qu'il y a, et il y a le fait de s'humilier, le fait de demander de l'aide au Seigneur. Ça prend un certain temps. Et puis Dieu met les circonstances devant pour que nous puissions y répondre. Et alors c'est lui qui peut dire, mon Dieu m'avait mis au cœur. Oui, le chrétien qui aime le Seigneur, à un moment donné, voilà, il agit pour le Seigneur et puis après, eh bien, il ne peut dire que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce qu'il se rend bien compte que c'est le Seigneur qui est derrière, qui a travaillé notre cœur. Il y avait déjà cette envie, cette étincelle. Et puis c'est le Seigneur qui me fortifie, qui m'encourage. Et on voit, il était d'abord seul. Peut-être que dans votre assemblée, vous voyez des choses qui ne vont pas. Vous vous sentez peut-être seul. Eh bien, commencez à prier. Commencez à présenter ce sujet. Commencez à confesser que vous êtes co-responsable de cette situation. Parfois, on s'est dit, oui, ce qui nous arrive à cause des divisions, c'est à cause de nos parents, c'est à cause des frères plus âgés. Et ainsi, eh bien, ce n'est pas notre responsabilité. Si nous sommes co-responsables, il y a donc à présenter cette humiliation devant Dieu, mais avec l'espoir, en sachant la certitude que Dieu va nous aider, que notre cœur soit engagé. Et ça, c'est la responsabilité de chacun, que nous ayons un cœur d'aimer l'Assemblée parce que le Seigneur a aimé l'Assemblée. Et alors, il nous montrera le chemin. Et puis, c'est grâce à un homme qui, au début, a fait ça en secret. Il n'a dit à personne. Et puis, au verset 17, eh bien, il leur dit, vous voyez la misère, et puis venez et bâtissons la muraille. Et je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi. Fin du verset 18, levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Voilà, grâce à une personne que cette situation concernait, eh bien, grâce à une personne, eh bien, c'est tout le peuple qui était là, qui a pu se réveiller, se lever, et puis bâtir la muraille et les portes.
Quant à l'état de Néhémie, on nous a dit quelque chose dans l'introduction, sa prière, se référant à ce que Dieu avait promis. Nous avons aussi dans le verset 13 quelque chose qui est extrêmement enseignant pour nous par rapport à l'état de Néhémie. Il sort de nuit, ne voit pas clair. C'est une situation extrêmement triste, il n'y a pas de lumière, il est dans la nuit, et alors, il passe par quelle porte? La porte de la vallée, le ravin tout en bas. Fini les prétentions, fini de croire qu'on a la vérité, fini tout cela. Il est par la porte de la vallée. Il y a deux versets qui vont bien avec cela, c'est dans Ézéchiel au chapitre 3, verset 22, « Et la main de l'Éternel fut là sur moi, et il me dit, « Lève-toi, sors dans la vallée, et là, je parlerai avec toi. » Il y a un état de cœur qui nous ouvre les communications divines. Il y a aussi ce très beau verset d'Osée, dans Osée chapitre 2, verset 14, « C'est pourquoi moi, voici moi, je l'attirerai, je l'amènerai au désert, je lui parlerai au cœur, et de là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor pour une porte d'espérance. Il est là, la porte de la vallée, et en face de lui, il y a quelque chose qui ne peut qu'étreindre son cœur. Il y a la source du chacal. Si nous allions dans, je pense que c'est Ésaïe 13, il est parlé de Babylone qui avait déjà été détruite à ce moment-là par les Mèdes et les Perses, et dit que ce sera la demeure du chacal. Un endroit inhabité. Un endroit où autrefois il y avait de la prospérité. Et là, c'est la source du chacal. Et la porte qui est mentionnée ensuite, après la porte de la vallée, c'est la porte du fumier. De quoi nous parle la porte du fumier? Elle nous parle de la confession. Il ne s'agit pas seulement de pleurer, il ne s'agit pas seulement de s'humilier, il s'agit de reconnaître d'une manière claire, sans faux fuyant, ce qui n'a pas été. Confesser ce qui nous amène dans une telle misère et ce qui déshonore le Seigneur.
Je voudrais juste lire quelques versets. On a beaucoup parlé de murailles et de séparation. Dans Néhémie, au chapitre 9, j'avance un petit peu. Et le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeûne et vêtus de sacs et avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger. Là, on a directement dans Néhémie la séparation. Le verset, il est assez clair. Hein, la race d'Israël, ce sont les enfants de Dieu qui ont été rachetés. Et les fils des étrangers, voilà, l'image est assez claire. Pourtant, à cette période-là, la muraille était déjà finie. Elle était finie au chapitre 7. Or, il arrivait, quand la muraille fut bâtie, que je l'eus opposé les battants et la porte. Tout était fermé. Et qu'est-ce qu'il y a entre le chapitre 7 et le chapitre 9 et le chapitre 8? Et alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. C'est ça qui nous permet de faire la séparation. C'est la connaissance, un peu plus loin il dit aussi de comprendre la parole, c'est ça qui nous permet de faire la séparation. La muraille est un outil qui permet de distinguer les choses, mais ce qui permet vraiment de savoir où mettre la muraille, c'est la parole.
La première strophe. Toi.